Radio Okapi.
Merci d'écouter Radio Okapi. Il est 18h pile à Kinshasa. Voici un nouveau journal. Les évêques membres de la CENCO fustigent la politisation de la CENI et réaffirment leur soutien à la gratuité de l'enseignement fondamental. C'est l'une des conclusions de leur session extraordinaire tenue à Kinshasa. Arrestation à la gare ferroviaire de Mweneditu d'un couple qui tentait de voyager pour Lubumbashi via Kamina avec 29 mineurs pour la plupart des filles. Pour l'heure, l'incriminé est auditionné au parquet de Mweneditu. Notre invité, c'est le directeur de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique centrale, Jean-Luc Mastaki, parle des conclusions du forum DRC Africa Business tenu à Kinshasa et des défis à relever pour la mise en œuvre de l'usine des précurseurs de batteries. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Madame, Messieurs, bonsoir. Au micro, Pascal Massirika, mise en onde de Jean-Noël Mokondo. Les membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo se disent préoccupés par la situation sécuritaire qui prévaut ces jours-ci en Ituri et au Nord Kivu, où le nombre de morts et de déplacés ne font qu'augmenter. Cette position a été rendue publique ce lundi lors d'une conférence de presse animée par le secrétaire général de la CENCO. L'abbé Donatien Chollet a fait la restitution de la session extraordinaire du comité permanent de la CENCO tenue à Kinshasa du 23 au 25 novembre. Il a indiqué que les évêques ont fustigé la politisation de la CENI et réaffirmé en même temps leur soutien à la gratuité de l'enseignement fondamental. Il a été joint par Alain Rungmouchi.
Pour la situation sécuritaire, ils se sont penchés particulièrement sur la situation de l'Ituri et du Nord Kivu. Ils ont examiné les deux rapports de la mission de la CENCO qui était sur terrain. Mais le plus préoccupant pour eux, c'est le fait que l'insécurité continue de façon préoccupante. Et le nombre de morts augmente, les déplacés internes. Alors, ils ont fait des propositions au commandant suprême dans le sens de réqualifier l'état de siège. Ils ont déploré la politisation de la CENI et ils font observer le climat de méfiance engendré dans la classe politique et dans la population et dans leur posture de pasteurs et non de militants. Ils ont pensé donner quelques orientations pastorales. Ils ont fait des recommandations, entre autres, des réformes consensuelles de la loi électorale. Si on peut avoir une loi électorale qui rassure les parties prenantes, avec toutes les questions qui se posent aujourd'hui, ça pourrait être intéressant.
Plus de 600 dossiers de conflits fonciers ne sont pas réglés au ministère des Affaires coutumières ici à Kinshasa. Annonce faite à Radio Okapi ce lundi par le président des autorités traditionnelles de la RDC. Wilbert Kiungu Kisebwe affirme que ces conflits sont l'œuvre des politiciens qui manipulent les chefs coutumiers. Il s'est confié à Blaise Shindani Kamala.
Je ne voulais pas que je termine le mandat sans toutefois terminer les conflits. Et c'est lui qui viendra me remplacer, qui ne trouve pas de conflits, c'est ça. À ce qui concerne les conflits, il y a déjà une commission en place que nous appelons la commission mixte, créée par le ministère des Affaires coutumières, au sein même du ministère de l'Intérieur. Par rapport à la préoccupation, moi je vois qu'il y a beaucoup de conflits, et surtout à Kinshasa, et les autorités politiques qui s'ingèrent des problèmes coutumiers. Et pourtant, ils n'ont pas aucune loi qui les autorise de régler les conflits coutumiers. Que vous soyez bourgmestre, administrateur, tout consort, rien.
Mais on accuse souvent les chefs coutumiers, eux-mêmes sont à la base de multiples conflits fonciers.
Moi, je vous dis vérité, quand on vous dit comme ça, les chefs coutumiers sont manipulés par la politique. Ça, c'est la politique qui nous divise, soit en disant que les chefs coutumiers sont yoka nakate. Et vous voyez tout qui crée beaucoup de conflits. Allez au ministère de l'Intérieur, vous allez voir plus de 600 conflits. Et on n'arrive pas même jamais à terminer même un conflit.
Et puis, à deux semaines de la fin de la session de septembre, le Sénat a débuté le travail qui consiste à examiner le contenu du projet de loi de finances pour l'exercice 2022, alors que l'examen de ce texte se poursuit à la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale. Le ministre d'État et ministre du Budget, Aimé Bodji Sangara, a remis vendredi ce document au président du Sénat, Michel Kifindangoy.
Comparativement au budget de l'exercice en cours, celui de 2022 représente une amélioration de plus de 40% et répond aux attentes du peuple congolais en respectant la vision du chef de l'État. C'est félicité le ministre du Budget, Aimé Boji.
Ce projet de loi est présentement en cours d'examen au niveau de la Chambre basse. Et donc le Sénat va recevoir le rapport de l'Assemblée nationale pour un examen en seconde lecture. Néanmoins, pour que les honorables sénateurs prennent connaissance du texte et à préparer cette deuxième lecture, il est important qu'ils aient pris connaissance du contenu de ce projet de loi. Et donc c'est dans ce contexte-là que nous sommes arrivés. Cela ne peut qu'améliorer la qualité du travail qui sera fait ici au Sénat à l'avantage du peuple congolais.
Le dépôt de ce projet du budget au Sénat, qui est déjà sous examen à l'Assemblée nationale, va permettre aux sénateurs de prendre connaissance du texte de ce projet de loi des finances en vue de faire un travail de qualité pendant la seconde lecture, après un rapport de l'Assemblée nationale, avec pour finalité voter un budget qui tient compte des réalités sur terrain, a souligné le président du Sénat.
Le directeur général de la Régie des eaux a attendu ce lundi au Sénat pour s'expliquer sur la pénurie d'eau potable à Kinshasa et dans d'autres provinces du pays. Vendredi dernier, Clément Moubiaï était devant la commission de l'aménagement du territoire où il n'a pas convaincu par ses réponses aux questions lui adressées. Le compte-rendu de Michel Kifindangoy.
Quand vous allez du côté d'Indie, les brasseries, il y a une usine déjà presque terminée qui pourra desservir presque 6 communes.
Dans ces éléments de réponse, le DG Clément Moubiaï se plaint que le gouvernement a accumulé une lourde créance, laquelle empêche la Régie des eaux de procurer de l'eau aux populations congolaises. Un argument jugé peu convaincant par le président de la commission aménagement du territoire, José Egbanda.
Il est vrai qu'il se plaint que le gouvernement congolais a beaucoup de dettes et ce sont ces dettes-là qui empêchent la Régie des eaux de donner de l'eau à la population. Ce qui n'est pas nécessairement vrai, parce qu'ils ont aussi des recettes. Ils ont des financements qui viennent des organismes ça et là.
Raison pour laquelle la commission a décidé de renvoyer la question à la sous-commission pour confronter les éléments mis à sa disposition à la réalité des faits.
Déjà, dès demain, la sous-commission va envisager la descente au niveau de la Régie des eaux pour confronter les chiffres qu'il nous a donnés, la situation des nouvelles unités, des tuyaux placés au niveau des météos. Pourquoi ces tuyaux ne sont pas exploités? Pourquoi les habitants de Kaluka, de Mbinza n'ont pas d'eau?
La commission a par ailleurs demandé à l'État de s'acquitter de ses créances envers la Régie des eaux pour lui permettre de bien fonctionner.
Et puis au Maniema, les intervenants dans le secteur minier sont appelés au respect du code minier, appel lancé ce week-end par le PDG de la société Congo-Jacksine. Joseph Kazibaziba rappelle la nécessité qu'il y a de tenir compte des aspects techniques et non politiques. Il est dit à Florence Kizalunga.
La libre circulation des minerais sont des mots qui sont dans les codes miniers. Tant que la libre circulation des minerais du code minier sont respectés, je ne vois pas pourquoi ne pas en encourager à la bonne volonté. La question devrait être, n'est-ce pas, traitée de manière technique et que politique. Politique, c'est pour accompagner des décisions techniques. On ne peut pas vouloir accompagner l'artisanat minier sans pourtant associer les gens qui sont en aval. En aval, ce sont les entités de traitement. J'aurais bien souhaité qu'il y ait un débat beaucoup plus ouvert où vous avez ceux qui sont en amont, les coopératives agréées, les négociants et aussi les entités de traitement ou de transformation qui prennent les concentrés et qui les exportent. La discussion doit ou devrait englober toutes les personnes intervenantes sur la chaîne des l'extraction jusqu'à l'exportation. En fin de compte, les personnes qui subissent des incidents à tous les niveaux, ce n'est pas ni les négociants, ni les coopératives, mais ce sont des entités de traitement. Mais si finalement certaines personnes veulent en faire une affaire personnelle, là, ça sera en violation.
Autre nouvelle sur Radio Okapi, arrestation le week-end dernier à la gare ferroviaire de Mweneditu d'un couple qui tentait de voyager avec 29 mineurs pour la plupart des filles. D'après les sources locales, ces enfants étaient déjà enfermés dans un wagon d'un train marchandise en partance pour Lubumbashi via Kamina. Pour l'instant, l'incriminé est auditionné au parquet de Mweneditu. Mbujimayi, Esther Ndalafina.
C'était vers 20h que le couple a été surpris avec 29 enfants mineurs enfermés dans un wagon vide en partance pour Kamina. Les sources proches de la Société des chemins de fer du Congo SNCC affirment que ces enfants se trouvaient assis dans un même wagon attendant l'heure de départ du train marchandise. C'est en ce moment que les contrôleurs de la SNCC, appelés communément Corsi, ont découvert ce couple dont l'homme est une personne vivant avec handicap entourée de 29 enfants mineurs. La même source affirme qu'au cours de sa première audition auprès des inspecteurs de la SNCC, l'homme a dit avoir été sollicité pour voyager avec les enfants par leurs parents résidant depuis quelque temps à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Du côté de la SNCC, Mweneditu, l'on affirme avoir transféré ce dossier au parquet près du tribunal de grande instance. Les organisations de la société civile déplorent de constater des mouvements migratoires d'enfants accompagnés par les personnes vivant avec handicap ces derniers temps sur les trains marchandises. Rappelons qu'il y a quelques années, certaines organisations non gouvernementales du Kasaï oriental avaient été surprises avec plusieurs enfants mineurs qu'ils faisaient voyager pour les États-Unis d'Amérique. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
On enchaîne avec l'Ituri où plus de 400 000 déplacés de guerre sont privés depuis un mois de l'appui médical de Médecins Sans Frontières MSF à Bambou et à Nizi dans le territoire de Djougou. C'est depuis le retrait de cette ONG de cette zone à la suite de l'activisme des miliciens de la CODECO. Dans un communiqué de presse publié ce week-end, cette ONG demande aux parties en conflit d'œuvrer pour le retour de la paix dans la région. À Bounia, Ezekiel Mouzalia.
Tout est parti de l'embuscade au mois d'octobre dernier d'une équipe du personnel soignant de l'ONG MSF par des présumés miliciens de la CODECO sur la route Bambou à environ 40 km au nord de Bounia. Deux agents de cette organisation et trois passagers qui venaient d'assister les malades dans cette zone ont été blessés par balles. Selon le communiqué de l'ONG MSF, la situation sanitaire et humanitaire reste préoccupante dans cette zone qui compte environ 120 000 déplacés internes. Cependant, l'insécurité persiste dans la région et entrave la reprise des activités des humanitaires. Le coordonnateur des projets des MSF de Nizi déclare, je cite, « Aujourd'hui, les conditions d'un accès sécurisé et nécessaire à la reprise de nos activités ne sont pas réunies. » Fin des citations. Stéphane Hauser regrette le fait que ce soit les civils, les blessés des guerres et les malades qui payent les prix de l'insécurité qui sévit dans cette zone. Pour pouvoir répondre aux besoins des populations affectées, il est indispensable de préserver la sécurité de nos médecins, a-t-il conclu, signalant que l'ONG MSF appuyait environ 4 hôpitaux de référence et plus de 30 postes de santé dans le territoire des Djougou. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Au deuxième jour de son séjour à Kisangani, chef-lieu de la Tchopo, la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, a offert ce week-end des médicaments essentiels, des vivres et des non-vivres aux structures médicales privées et officielles de la Tchopo. Reportage à Kisangani de Jacques Mukonkole.
Le pavillon militaire de l'hôpital général de référence de Kisangani-Makiso et l'hôpital Prince Al-Walid sont les premiers à bénéficier de l'assistance de Denise Nyakeru Tshisekedi. À l'hôpital Al-Walid sont internées des femmes victimes de violences sexuelles. Outre les matelas et les médicaments, ils ont reçu également une enveloppe. Après ces deux formations médicales, la première dame s'est rendue à la maison Saint-Laurent des prêtres du Sacré-Cœur de Jésus. Ces pensionnaires sont des enfants en conflit avec la loi. Eux ont reçu des vivres pour leur survie pendant quelques semaines. De l'autre côté du fleuve Congo, dans la commune Lubunga, l'épouse du chef de l'État s'est rendue au centre social. Ici, ce sont des machines à coudre, des jambières et autres matériels divers qui ont été offerts, notamment pour l'autonomisation de la femme. Ces dons ont été bien appréciés par les bénéficiaires qui n'ont pas tari d'éloges envers leurs bienfaitrices. Le gouverneur de province s'est félicité d'avoir réussi à faire traverser la première dame à Lubunga, puisque comme l'a dit Maurice Abibou Sakapela, c'est l'entité qui l'a vu naître et grandir. Jacques Mukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Tchad, une amnistie générale des rebelles emprisonnés ou en exil a été annoncée ce lundi à N'Djamena, la capitale. Le porte-parole du gouvernement affirme que cette amnistie concerne principalement 39 condamnés pour terrorisme et enrôlement des mineurs dans les groupes armés. Au Mali, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a échangé ce lundi après-midi avec les leaders politiques du pays pour les inciter à participer au dialogue national de la refondation. Certains leaders politiques disent avoir participé plutôt à un monologue lors d'une réunion de moins d'une heure. Et puis la communauté internationale est confrontée ce jour-ci à la menace d'un nouveau variant hautement transmissible du coronavirus qui nécessite une action urgente. C'est ce qu'ont estimé ce lundi les ministres de la Santé publique du pays du G7. C'était à l'issue d'une réunion d'urgence convoquée par Londres. Ils saluent également le travail exemplaire de l'Afrique du Sud qui a su détecter au plus vite le variant et alerter les autres pays.
L'invité.
Notre invité ce soir, c'est le directeur du bureau régional de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique centrale. Jean-Luc Mastaki parle des conclusions du forum DRC Africa Business qui s'est tenu à Kinshasa la semaine dernière et des défis à relever dans le cadre de la mise en œuvre de l'usine de précurseurs de batteries. Il s'entretient avec Paul Matendo.
Monsieur Jean-Luc Mastaki, bonjour.
Bonjour.
Dites-nous, vous êtes l'un des grands organisateurs de ces forums. Quelles sont les résolutions retenues?
Disons tout d'abord que le forum a eu pour objectif de réunir des partenaires financiers autour du projet de transformation du cobalt congolais afin d'aider ce pays qui est dépositaire de plus de 70% des réserves mondiales de cobalt à passer de l'étape d'exportation de matières brutes pour commencer à produire des précurseurs de batteries. La réunion s'est conclue par une signature d'accord pour lancer le projet d'installation d'une usine ici qui sera intégrée au système extractif congolais pour produire les précurseurs de batteries dans ce pays. Les prochaines étapes, c'est mettre en place, ça a été fait déjà, le Conseil congolais de la batterie qui est un partenariat global incluant toutes les parties prenantes congolaises et étrangères et les partenariats panafricains pour que nous puissions avancer sur ces chantiers et que les mois qui viennent soient les mois où on va avoir étape par étape la mise en place de ce projet novateur qui consistera à produire les précurseurs des batteries et demain, pourquoi pas les batteries et après demain, pourquoi pas les voitures électriques en RDC.
Qu'est-ce que les Nations Unies comptent faire pour mobiliser le partenaire financier?
Déjà, nous les avons mobilisés. Nous sommes venus ici avec Africa Finance Corporation. Nous sommes venus ici avec Afrexim Bank. Nous sommes venus ici avec la Banque africaine de développement. Nous sommes venus ici avec BADEA. Nous sommes venus ici avec le Global Compact des Nations Unies. Et donc, déjà, les ressources sont mobilisées. Devant le président Félix Tshisekedi, il a été signé le pledge. Le pledge qui témoigne de l'engagement de tous ses partenaires financiers à mettre la main à la poche pour pouvoir matérialiser ce projet. Nous allons donc mettre en place déjà les structures. Nous allons, les dernières discussions dans la séance de clôture, c'était pour essayer de faire le brainstorming pour avoir des éléments de cet appareil-là qui va nous permettre maintenant de mobiliser, de canaliser toutes ces ressources pour que nous commencions à mettre en place le projet. Donc il n'y a pas beaucoup de soucis du côté de la mobilisation des partenaires financiers. Tout a déjà été fait. Ils sont très engagés. Nous avons un secrétariat technique des partenaires qui est très engagé et qui a déjà fait le pledge. Il s'agit maintenant d'avancer avec la partie congolaise pour que cette idée devienne une réalité. Comme nous disons à la CEA, go from ideas to action. Nous voulons maintenant avoir des actions sur le terrain et dès demain, on va les voir au Congo.
Quels sont les défis que vous avez déjà identifiés en tant qu'organisateur?
Le grand défi par rapport à ce projet, je crois que le projet, comme la vice-première ministre l'a dit, c'est un projet solution. Ça dit qu'il apporte beaucoup de réponses à des défis qu'il y avait ici. Nous y aurons dans une approche sous-régionale parce que le Congo n'a pas toutes les matières premières des batteries. Le Congo a la matière première la plus importante qui est le cobalt, mais il y a d'autres matières premières. Le lithium, nous en avons, graphite et d'autres qui viennent de l'extérieur. Nous avons déjà trouvé solution à ces problèmes-là en proposant une chaîne de valeur sous-régionale. C'est-à-dire le Congo, avec sa matière première principale, va avoir l'appui du Gabon en termes d'apport de manganèse. Graphite viendra du Madagascar ou de la Tanzanie, et ainsi de suite, nous allons construire une batterie produite au Congo, mais une batterie panafricaine. Premier défi que nous avons relevé. Deuxième défi, c'est le défi des compétences. La plupart des fois, les investisseurs du secteur de pointe disent que le Congo n'a pas de compétences acquises, pas beaucoup d'ingénieurs qui peuvent faire ce travail. Le projet propose dans un premier temps la mobilisation des compétences panafricaines. Pendant un temps, qui vont venir faire ce partenariat avec le Congolais pour renforcer les capacités de nos propres acteurs afin que demain nous puissions nous approprier de ces projets et que le Congo consolide son leadership comme cœur de la transition énergétique en Afrique.
Ce projet se décide au sommet effectivement. Quel est le message que vous pouvez vous donner à la base?
Ce projet ne se dessine pas au sommet. Les débats qui se sont passés ici pendant 3 jours ont mobilisé les acteurs du secteur public. Il y a eu un dialogue quasi sociétal ici sur ces questions. Nous allons passer aux étapes suivantes, les étapes qui vont nous amener sur terrain pour mobiliser beaucoup plus les populations à la base. Mais déjà, le projet a été ficelé à travers un dialogue qui a duré 8 mois de sommet vers la base. Tous les acteurs, les entrepreneurs du secteur, vous avez suivi le monde de la FEC ici. Vous avez suivi le monde des femmes engagées dans les mines. Vous avez suivi le monde des miniers, des trésors artisanaux. Et donc, il y a cette coalition-là qui est en place, qui témoigne que le projet est en train de se développer de façon participative.
Monsieur Jean-Luc Mastaki, merci beaucoup.
C'était l'invité de Radio Capi, le directeur du bureau régional de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique centrale. Jean-Luc Mastaki était interviewé par Paul Matendo et c'est la fin de cette édition d'information sur Radio Capi. Merci de l'avoir écouté. Il est 18h20. Merci infiniment à Noëlla Luzitu Kabambi et Alain Irung Mouchige qui m'ont accompagné. Retrouvez cette édition d'information sur www.radiocapi.net.